En introduction, je voudrais qu'on se demande un peu ensemble qu'est-ce que c'est qu'une religion, parce qu'on ne met pas toujours la même chose sous ce mot-là. Puis dans une première partie, on verra ce que fut l'évolution des religions au cours du XXe siècle et début du XXIe. Puis dans une deuxième partie, on verra s'il peut y avoir entre ces religions une coexistence pacifique ou un affrontement. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une religion ? C'est pas du tout évident. Par exemple, peut-on distinguer une religion d'une secte ? C'est pas sûr. Certains pensent qu'une secte, c'est de petite dimension, mais on classe parfois parmi les sectes des organisations qui ont plusieurs millions d'adhérents. Et inversement, il y a des religions qui ont très peu de fidèles. Dans votre programme de sixième, c'est un petit peu loin, vous avez dû très brièvement étudier le Moyen-Orient et la Perse, à la religion de Zoroastre, qui est en Perse, en Iran, a en tout et pour tout 100 000 fidèles dans le monde, mais ce n'est pas une secte. Donc ce n'est pas vraiment comment distinguer secte et religion, sinon que secte c'est un peu péjoratif, et puis que dans la secte il y a une idée de contrainte, de gourou qui ne respecte pas les libertés. Alors l'origine même du mot religion est tout à fait discutée. Il y en a qui font du latin un petit peu ? Ouais ? Pas beaucoup, quelques-uns. Bon. Alors, certains disent que ça vient de religare, qui veut dire relier. C'est vrai que les religions relient des gens entre eux, mais ça sépare aussi des gens, ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Et puis, au sein d'une même religion, il y a des oppositions, chiites, sunnites dans l'islam, catholiques, protestants, orthodoxes dans le christianisme. D'autres disent que ça vient de legere, qui veut dire recueillir, c'est plutôt ça l'origine. Recueillir des traditions, recueillir aussi des mots, des phrases, des lignes, des textes, dans un recueil de textes, des textes sacrés comme la Bible, le Coran, mais aussi dans le bouddhisme, ce qu'on appelle la triple corbeille des textes sacrés. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que relegere, ça vient d'un verbe latin lego, que vous trouvez dans le jeu du lego, ces petits cubes qu'on assemble. Et lego en latin, ça veut dire lire, c'est-à-dire choisir des lettres. Et lego en grec, ça veut dire dire, c'est-à-dire choisir des sons. On est toujours amené à faire des choix dans nos paroles, dans nos lectures, et la religion c'est aussi des choix, notamment des textes qu'on a choisis pour être sacrés, et puis des textes qu'on n'a pas mis dans le canon des œuvres sacrées. Et comme le disait le philosophe Michel Serre, le contraire de la religion c'est la négligence, un relegere, negligere. C'est-à-dire que d'une certaine manière, la religion, ça serait un recueil de textes, de principes, de morale aussi, pour éviter de négliger ses devoirs. Mais en grec, religion, ça se dit thérapeia, thérapie, c'est-à-dire soin, soin donné aux dieux, aux autels des dieux, et puis soin donné aux hommes. Et c'est vrai que la notion de guérison est très présente dans les religions, les miracles de Jésus, etc. En chinois, religion, ça se dit jiao, J-I-A-O, qui veut dire enseignement. C'est-à-dire que pour les Chinois, la religion, c'est une affaire d'étude, d'instruction, de lettré, de mandarin. Et le contraire de la religion, c'est le fait d'être pas instruit ou d'être illettré. C'est vrai en partie, parce que beaucoup de gens ont appris à lire ou à écrire grâce aux religions, l'école coranique, l'école rabbinique. En Afrique, beaucoup le catéchisme catholique ou l'école du dimanche protestante. Et puis, au Cameroun, en pays Douala, religion, ça se dit Ebasi, E-B-A-2-S-I, qui veut dire petit foulard, pas musulman, mais chrétien, parce que les missionnaires demandaient aux femmes de se couvrir la tête avant d'aller dans l'église, et pour ces femmes, la religion, c'était le symbole de ce petit foulard, de ce petit voile. voyez que la notion de religion n'est pas forcément la même sur toute la planète. Hein. Chez nous, à partir des religions issues d'Abraham, on est soit juif, soit chrétien, soit musulman, soit athée. En Chine, on peut être à la fois un peu bouddhiste, un peu taoïste, un peu confucéen, et ce n'est pas forcément contradictoire. Alors, voyons maintenant notre première partie sur l'évolution des religions au cours du XXe siècle. Grosso modo, qu'on soit en 1900 ou qu'on soit en 2007, la première religion du monde demeure le christianisme. Un tiers des êtres humains sont baptisés, que ce soit il y a 100 ans ou aujourd'hui. Il y a à peu près sur 6 milliards de terriens, 2 milliards de baptisés. Un tiers. Ça n'a pas changé. La population mondiale a été multipliée par 6. La population des baptisés a aussi été multipliée par 6. Simplement, ce qui a beaucoup changé, c'est la localisation de cette population de chrétiens qui autrefois était située essentiellement en Europe ou en Amérique du Nord et aujourd'hui sont situés un peu plus et même davantage dans des pays du Sud, en Afrique, en Amérique latine ou en Asie. Chez nous, on a l'impression qu'il y a de moins en moins de gens dans les églises, catholiques ou protestantes. Mais si vous allez dans des pays du Sud, je dirais que 80% des baptisés vont au culte dominical ou à la messe tous les dimanches, y compris les jeunes, alors que chez nous, la religion, c'est plutôt un truc de vieux. Alors, la moyenne d'âge des pratiquants en France doit être d'environ 65 ans, mais dans un pays comme le Bénin ou le Togo, elle est de 25 ans. Simplement, la moyenne d'âge des Français est de 14 ans. La moyenne d'âge d'un Nigérien est de 15 ans et demi. Donc à 16 ans au Niger, vous faites partie de la moitié la plus âgée de la population. C'est comme ça. Alors, en 1900, la religion chrétienne était essentiellement donc pratiquée dans les pays du Nord et dans les pays de mission grâce à la colonisation des Français, des Anglais, des Belges, des Portugais, des Espagnols, des Hollandais, etc. En ce qui concerne la distinction entre les différentes confessions chrétiennes, il y a d'abord les catholiques, qui représentent aujourd'hui 1,1 milliard de baptisés. La proportion dans le monde est la même qu'en 1900 et qu'en 1939. Simplement, en 1939, les trois premiers pays catholiques du monde étaient dans l'ordre la France, l'Allemagne du Grand Reich après l'annexion de l'Autriche et puis l'Italie. Or aujourd'hui, les trois premiers pays catholiques du monde sont dans l'ordre le Brésil, le Mexique et en trois, les Philippines. Bon, et oui, c'est des pays à démographie galopante. Alors, les protestants sont environ 650 millions. Premier pays protestant du monde, les États-Unis. Deuxième pays protestant du monde, ça c'est une colle, le Nigeria. Troisième, Allemagne et quatrième, Grande-Bretagne. Tout simplement parce qu'au Nigeria, il y a 130 millions d'habitants, même plus 140, dont environ 50 millions de protestants. C'est la démographie qui joue à plein. Parmi le protestantisme, il y a plusieurs confessions différentes, des luthériens, des réformés, des anglicans. Vous savez que l'anglicanisme a été fondé par le roi Henri VIII d'Angleterre au XVIe siècle parce que le pape lui refusait son divorce. C'est un truc d'anglais, anglican. Mais aujourd'hui, avec la colonisation, la majorité des anglicans dans le monde sont noirs. Noirs d'Afrique ou des États-Unis. D'autre part, au sein du protestantisme, il y a beaucoup de nouvelles églises qu'on appelle évangéliques et qui sont très présentes partout dans le monde. Par exemple, en Amérique latine, c'était un continent à 100% catholique il y a 30 ans. Aujourd'hui, 20% de la population d'Amérique latine est protestante évangélique. Puis il y en a aussi en France et ailleurs des évangéliques. Donc sur à peu près 650 millions de protestants, à peu près la moitié est évangélique. Il y en a aussi beaucoup en Asie. La Corée a aujourd'hui autant de protestants que de bouddhistes. Donc, que ce soit les catholiques, les protestants, grosso modo par rapport à la population mondiale, ils se portent bien, ils progressent au même rythme, et même un petit peu plus rapidement pour les protestants. Par contre, l'effondrement, c'est l'orthodoxie, sont 250 millions, c'est-à-dire le même chiffre qu'en 1900, alors que la population mondiale a été multipliée par 6. La raison est double. La première, c'est que les pays orthodoxes comme la Russie et la Grèce n'ont pratiquement pas eu de colonies, donc l'orthodoxie est restée européenne. Et la deuxième raison est qu'il y a eu le marxisme athée dans les pays d'Europe de l'Est qui ont lutté contre la religion, même si aujourd'hui il y a un certain retour à la religion en Russie. Voilà en gros pour le christianisme. Alors deuxième religion du monde maintenant, l'islam, à peu près 1,3 milliard de musulmans dans le monde, et ça augmente un petit peu plus vite que la population mondiale, le nombre de musulmans, essentiellement parce qu'ils se trouvent beaucoup dans des pays à démographie dynamique. Les conversions jouent un rôle tout à fait mineur. Alors, il y a des changements énormes. Quels étaient, à votre avis, les trois premiers pays musulmans du monde en 1900? C'est celui qui dit ça au bac, croyez-moi, il a 20 sur 20 en histoire. Alors, le premier, vous devinez pas, non? Ben, si vous dites l'Indonésie, vous n'êtes pas très loin, mais c'était l'époque de la colonisation. Alors le premier, c'était la Grande-Bretagne, grâce à ses colonies des Indes, hein, puisque l'impératrice d'Angleterre ou le roi, enfin la reine ou le roi, était empereur des Indes. Donc c'était la Grande-Bretagne. Deuxième pays, les Pays-Bas, qui possédaient à l'époque l'Indonésie. Et troisième pays, la France. Dans l'Empire français, sur 100 millions d'habitants, il y avait 30 millions de musulmans. Mais ils habitaient en Afrique, dont 7 millions dans les départements français d'Algérie. Alors, la grande différence par rapport à 1900 ou 1939, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pratiquement pas de musulmans en Europe, alors qu'aujourd'hui, il y en a en gros 4 millions en Grande-Bretagne, 2 millions en Allemagne ou en Angleterre, etc. Donc, ces musulmans qui se trouvaient en Afrique ou en Asie, se trouve aujourd'hui dans les grandes villes d'Europe et dans une moindre mesure d'Amérique du Nord. Ça, c'est un changement fondamental. Les quatre premiers pays musulmans du monde aujourd'hui sont dans l'ordre l'Indonésie, le Pakistan, le Bangladesh et l'Inde. C'est-à-dire quatre pays situés à l'est du fleuve Indus. Et donc l'islam est une religion de plus en plus extrême orientale. Nous, on connaît surtout l'islam du Maroc, ça doit être le 10e pays musulman du monde, Algérie 11e, Turquie 7e, je crois. Mais les musulmans sont de plus en plus en Extrême-Orient, et ils sont de moins en moins arabes, du moins de naissance, puisque à l'heure actuelle, sur 1,3 milliard de musulmans, un sixième seulement sont arabes. Même si tout musulman est un petit peu arabe de cœur, parce que le Coran est rédigé en arabe et parce qu'il y a le pèlerinage, la majorité des musulmans sont des Malais en Indonésie, sont des Pachtounes, sont des toutes sortes d'ethnies au Pakistan, sont des Dravidiens, enfin, etc. Et donc ils appartiennent à des cultures et à des langues de plus en plus extrêmes, orientales. Troisième religion du monde, c'est l'hindouisme. 850 millions d'hindous qui sont presque tous situés en Inde et un petit peu dans les diasporas indiennes d'Europe, de Grande-Bretagne. Il y a une petite communauté à Paris. Par rapport à la population mondiale, c'est un chiffre stable. Il y a en gros un terrien sur sept qui est hindou. Quatrième religion, c'est le bouddhisme. Et la grande surprise, contrairement à ce qu'on croit, le bouddhisme est en plein recul. Il y a à peu près 400 millions de bouddhistes, c'est le même chiffre qu'en 1900, alors que la population mondiale a été multipliée par 6 pour deux raisons, les mêmes que pour l'orthodoxie. Un, les pays bouddhistes étaient des pays plutôt colonisés et qui n'avaient pas de colonies. Et deux, ils ont eu le marxisme athée en Chine, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, qui a lutté contre la religion, même si aujourd'hui il y a un certain retour à la religion bouddhiste. Alors les principaux pays bouddhistes du monde, il y a deux types principaux de bouddhisme, ce qu'on appelle le petit véhicule et le grand véhicule, mais en gros les principaux pays, c'est Sri Lanka, Birmanie, Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam, Chine et Japon, d'ouest en est. Un petit B, mais nous on connaît beaucoup le Dalai Lama, chef spirituel des Tibétains bouddhistes, mais il représente même pas 1% des bouddhistes du monde, parce que le Tibet est très peu peuplé. Alors, cinquième religion, je dirais que ce sont les religions traditionnelles d'Afrique et d'Océanie, ce qu'on appelle l'animisme, le fait de croire aux forces de la nature. Religion en plein déclin parce que beaucoup d'animistes ont été convertis soit à l'islam, soit au christianisme. Il en reste à peu près 200 millions, un petit peu moins, 150 millions. La religion la plus connue est celle du vaudou, pratiquée notamment au Bénin et à Haïti. Mais de plus en plus, ils se convertissent au christianisme ou à l'islam. Alors, il y a bien d'autres religions. Je pense en Inde, les Sikhs, les Jains, etc. Mais bien entendu, il faut parler du judaïsme. Alors, les Juifs sont seulement 15 millions dans le monde. C'est le même chiffre qu'en 1900, et donc, par rapport à la population mondiale, c'est 6 fois moins. En raison des terribles persécutions, des pogroms en Europe centrale au début du XXe siècle, et bien sûr de la Shoah sous le nazisme. Mais en même temps, on ne peut pas réduire une religion aux chiffres. Il n'y a pas que le quantitatif. Il y a des personnalités juives qui ont joué un très grand rôle dans l'histoire de l'humanité. Je pense à Freud, qui a révolutionné la psychologie, à Einstein, qui a révolutionné la physique. Puis je pense beaucoup à Trigano, le fondateur du Club Méditerranée, qui a révolutionné les loisirs, les buffets géants au petit déjeuner, les mini-clubs, les crèches. Vous savez que l'origine des crèches en France, il y en a une en Russie dans les Sofkos, et il y en a surtout une en Israël dans les kibbutzim. Ça s'est fait connaître en France parce que Trigano s'est dit, les vacanciers, il faut délivrer les mamans des bébés pendant la journée. On les a mis dans des crèches, des mini-clubs, puis après ça s'est popularisé. Donc on ne peut pas réduire le judaïsme à des simples éléments chiffrés. Les deux premiers pays juifs du monde sont Israël et les États-Unis. 7 millions de juifs en Israël, 6 millions aux États-Unis. La troisième communauté mondiale est en France, où il y a à peu près 600 000 juifs. Voilà donc pour ce panorama et cette évolution des religions en un siècle. Alors voyons maintenant le gros problème dans notre deuxième partie, coexistence pacifique ou affrontement. Alors, je voudrais faire deux remarques. D'abord, la première, c'est aucune religion, aucune guerre n'est exclusivement religieuse et aucune guerre n'est totalement profane. Dans tout conflit, il y a des éléments politiques, économiques, sociaux, culturels, multiples. Si vous prenez l'affrontement entre les catholiques et les protestants en Irlande, il y a eu aussi des problèmes sociaux liés à la pauvreté des Irlandais catholiques qui protestaient contre la Grande-Bretagne qui les colonisait et qui, d'après eux, avait une sorte de supériorité économique ou d'arrogance économique à leur égard, disait-il. Bon. Donc, les causes des conflits sont étroitement mêlées. Prenez la guerre de 14-18, c'est une guerre profane. La religion n'y jouait apparemment aucun rôle, puisque dans le même camp, il y avait des Français catholiques ou anticléricaux, des Anglais protestants, des Américains protestants et catholiques, des Russes orthodoxes, et dans l'autre camp, il y avait les empires centraux, c'est-à-dire l'Allemagne protestante et catholique, l'Autriche catholique, et la Turquie ottomane. Alors, je vais vous donner un petit truc pour le bac, mais il faut vous en parler à vos profs. Quand vous regardez tous les conflits actuels, dans les plus importants, la clé de tout, ce sont les traités qui ont mis fin à la guerre de 14-18. Et après cette boucherie de la guerre de 14-18, on a signé des traités qui malheureusement n'étaient pas bien rédigés. Pour l'Allemagne, c'était le traité de Versailles, qui a abouti malheureusement à des drames épouvantables qui ont conduit Hitler au pouvoir. Pour l'Autriche, c'était le traité de Saint-Germain, qui aboutit à beaucoup de problèmes, dont la création de la fameuse Yougoslavie qui s'est complètement décomposée et qui a donné ensuite les difficultés que vous savez en Serbie, en Croatie, en Bosnie, au Kosovo, à Sarajevo. Et puis, pour la Turquie, c'est le traité de Sèvres qui était tellement mal rédigé qu'il a, en 1920 qu'il a fallu le réécrire au traité de Lausanne en 1923. Et qui fait toujours problème encore aujourd'hui à certains égards. Ce qu'on appelait la Mitteleuropa, les empires centraux, se sont décomposés et ça a donné lieu à d'immenses difficultés qui n'ont jamais été totalement résolues. Et quand vous voyez l'histoire de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, dites-vous bien qu'il y a encore des traces de la guerre de 14-18 derrière ça. Voilà pour ces histoires de traités, mais je vous signale que la guerre de 14-18, en France, on a appelé ça l'Union sacrée. Et pourtant, la France était anticléricale. Mais devant l'ennemi commun, allemand, le Bosch, etc., peu importe la religion, tout le monde se réconciliait, y compris les catholiques et les anticléricaux. La guerre de 14-18, vous l'avez apprise en cours ? Vous l'avez apprise l'an dernier ? Hein ? L'an dernier, vous vous en souvenez un peu ? Vous vous souvenez de l'offensive du chemin des dames ? Le 16 avril 1917, 80 000 morts pour avancer de 150 mètres. Bon. Il y a eu une mutinerie terrible dans l'armée française. Les régiments se mutinaient, etc. L'armée se décomposait. Et le gouvernement a dit au président du conseil, qui s'appelait Georges Clémenceau, qui était anticlérical notoire, il faut se réconcilier avec les catholiques, sinon ben, l'armée est foutue, la guerre est fichue. Vous savez ce qu'a fait Clémenceau, président du conseil anticlérical ? Il est allé voir un religieux, qui s'appelait Père Brottier, qui était le directeur d'une œuvre qui existe encore, Les Orphelins apprentis d'Auteuil, un simple prêtre, mais qui était très courageux dans les tranchées pour secourir les blessés. Et il lui a dit, mon père, nous allons fonder l'Union française des combattants. C'est-à-dire que lui, président du conseil, a mis à son égal un simple prêtre de base, et ils ont fondé la première grande association de combattants et d'anciens combattants, pour redonner le moral à l'armée française. Et ça a très bien marché. Donc vous voyez que même dans une guerre dite profane comme 14-18, l'élément religieux n'est pas négligeable. Et vous noterez que dans les cimetières militaires, à l'exception des juifs qui ont été enterrés avec une croix de David, tous les autres soldats enterrés sont enterrés sous une croix, y compris ceux qui n'étaient pas chrétiens. Ça fait un petit peu jaser, mais on a dit que c'est le seul moyen de réconcilier les catholiques avec la République. D'autre part, je voudrais souligner qu'aucune religion n'a le secret de la paix ni le monopole de la guerre. Aucune. Donc il n'y a pas une religion belliqueuse et des religions pacifiques. Mais il y a une échelle de gradation dans la violence. On a dit que dans la religion antique, que vous avez étudiée en sixième, il n'y avait pas de guerre parce que les dieux et les déesses des cités pouvaient très bien être empruntés par les cités voisines. On vénérait Vénus à Rome, qui s'appelait Aphrodite en Grèce, Astarté en Phénicie, au Liban, et Ishtar en Mésopotamie, en Irak. C'est vrai, mais quand, dans l'Empire romain, il y a eu le culte d'Auguste, la religion polythéiste est devenue intolérante, puisqu'on a exigé de tout le monde, y compris des chrétiens, qu'ils adorent Auguste, ils ont refusé, c'était le début des persécutions des chrétiens. Donc même dans l'antiquité polythéiste, on a eu des violences. Alors, cela étant, il y a quand même deux religions qui, par leur histoire et leur genèse, sont quand même un peu plus habitées par les phénomènes militaires. La première religion, c'est le judaïsme, dont la formation même est liée à cinq épreuves militaires internationales. La première, c'est l'exode d'Égypte, même si c'est mal connu. La deuxième, c'est la lutte contre les Philistins. David contre Goliath, vous vous souvenez la petite fronde de David contre Goliath. Et David qui ramène au roi Saül des preuves de sa vaillance. Le roi Saül lui avait dit de ramener 100 prépuces de Philistins. Les garçons comprennent. Elle en ramène 200. Bien sûr, il les avait tués. Et c'est le roi David. Troisième épreuve, l'exil à Babylone. C'est dans la Bible, hein. Troisième épreuve, l'exil à Babylone, en Irak, par le roi Nabucodonosor, où les juifs vont être persécutés, bien sûr déportés, mais en même temps ils vont conforter leur foi et ils vont mettre par écrit des livres qui seront la Bible. Et ils seront délivrés de là par Cyrus, roi de Perse. Ça c'est vers 600 avant Jésus-Christ. L'Exode, on ne sait pas quand ça a eu lieu. Les Philistins, c'est vers 900 avant Jésus-Christ, 900 000. L'Exode, c'est 6e siècle avant Jésus-Christ. L'exil à Babylone, 6e siècle avant Jésus-Christ. Quatrième épreuve, la guerre des Maccabées, très violente. Comme dit la chanson, dans un amphithéâtre, il y avait des Maccabées, c'est-à-dire des cadavres. Les Maccabées étaient les juifs résistants contre les princes grecs qui, à l'époque, gouvernaient Israël et qui avaient interdit la circoncision. Les garçons comprendront. Et les mamans juives avaient dit « plutôt voir mon fils mort que incirconcis ». Et ça donnait lieu à une guerre terrible. Et à l'issue de cette guerre, pour la première fois, il y aura une croyance explicite en la résurrection. Des jeunes juifs torturés par leurs bourreaux grecs diront « tu peux bien m'ôter la vie, mais mon Dieu me ressuscitera ». Ça, c'est vers 167 avant Jésus-Christ. Puis cinquième épreuve, la guerre des juifs contre les Romains, qui vont massacrer, crucifier, etc., vers, je dirais, le premier siècle de l'ère chrétienne. Alors, ça vaut le coup qu'on en parle un petit peu, parce que d'habitude on dit toujours « les ennemis de mes ennemis sont mes amis ». Comme les ennemis des Juifs étaient les Grecs, ils ont appelé à leur secours les ennemis des Grecs qui étaient les Romains. Or les Romains étaient à l'époque occupés par ce qu'on appelait les guerres serviles, des révoltes d'esclaves et notamment du célèbre Spartacus. Alors il y avait un seul général romain de disponible qui s'appelait Pompée, qui était en Espagne, qui luttait contre quelques Ibères et qui a dit « Bon ben d'accord, j'arrive en Israël, encore quelques Ibères à trucider et puis j'arrive. » Et à peine il est arrivé en Israël, délivré les Juifs des Grecs, il s'est mis à coloniser Israël, rebaptisé Palestine, province romaine de Palestine. Le mot Palestine vient d'ailleurs de Philistin. Et à ce moment-là, il y a eu des révoltes des Juifs qui ont abouti à la destruction du Temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ et à la destruction de la ville de Jérusalem, reprise et conquise par les Romains en 135 après Jésus-Christ. Et tous les Juifs ont été expulsés de Jérusalem et c'est là qu'ils ont écrit les célèbres Talmuds. L'un dit de Jérusalem a écrit à Tibériade, sur les bords du lac de Tibériade, et l'autre dit de Babylone, écrit à Babylone. Entre-temps, il y avait eu quelques résistants juifs qui ont refusé de se rendre à la forteresse de Massada, en Israël, au-dessus de la mer Morte, en 73 après Jésus-Christ. Et encore aujourd'hui, les officiers de l'armée israélienne de Tzalal prêtent serment en disant Massada ne tombera pas une deuxième fois. Vous voyez, même les conflits très chauds actuellement, comme le problème palestinien, trouvent une certaine, je dirais, résonance hein, dans la plus haute antiquité. Ça, c'est la première religion très marquée par la guerre dans son histoire, c'est le judaïsme, et même dans sa genèse. Et la deuxième religion, c'est l'islam, avec les trois grandes batailles qu'a dû mener le prophète entre 622 et 624 après Jésus-Christ. Le prophète Mohammed luttait contre les polythéistes de la Mecque. Il a gagné une première bataille, la bataille de Badr, B-A-D-R. Il en a perdu une deuxième, la bataille de Uhud, O-H-O-U-D. Et il a gagné la belle, la troisième, la bataille du fossé. Alors c'est très intéressant parce que à ce moment-là, dans les armées du prophète, il y avait des soldats juifs qui, semble-t-il, ont déserté, d'après une tradition, et c'était le début d'un antagonisme entre islam et judaïsme. Puis c'est aussi intéressant parce que le prophète a utilisé les techniques guerrières des Iraniens, des Perses, notamment la construction de fossés pour protéger son armée. Et là, il y a eu les premiers rapports entre les Iraniens, les Perses et le prophète, et très rapidement, l'islam a conquis en moins de 20 ans une grande partie de l'Empire romain, de l'Empire byzantin, qui était le successeur de l'Empire romain, et aussi de l'Empire perse. Jamais dans l'histoire de l'humanité, une religion n'avait progressé aussi rapidement, en raison à la fois des divisions de ses adversaires et des techniques militaires appliquées, notamment la cavalerie arabe, les petits chevaux tournoyants qui prenaient à revers les lourds fantassins maladroits des armées byzantines et persanes. Alors, moins de 100 ans après la mort du prophète en 632, les armées arabes seront jusqu'à Poitiers et aussi jusqu'au fleuve Indus. Et à partir de là, ça s'arrêtera. Plus jamais l'islam ne conquérera de terre par la force. Les autres seront conquises par les commerçants. Ce sont les commerçants arabes, notamment les fameux marins malabar, qui iront jusqu'en Indonésie. Et ce sont les caravanes arabes ou berbères convertis à l'islam, Touareg, qui vont convertir à l'islam l'Afrique via le Sahara. Alors ici, petit retour en arrière dans l'histoire et la géographie. Vous savez que le Sahara était verdoyant jusqu'au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Il y avait des forêts, il y avait des animaux. Et il y a eu la plus grande catastrophe climatique de toute l'histoire de l'humanité qui a été la désertification du Sahara qui, à partir de 1000 avant Jésus-Christ, est un désert, un obstacle total à la circulation. Sauf que les Arabes possédaient le chameau domestiqué qui leur a permis de faire progresser l'écriture et le Coran jusqu'au cœur de l'Afrique par la voie terrestre, alors que les Européens ont apporté le christianisme par la voie maritime à partir du XVIe siècle. Ce qui explique que dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin ou le Nigeria, les côtes sont chrétiennes et l'intérieur des terres est musulman. Voilà donc en gros pour l'islam. Alors maintenant le christianisme, c'est un paradoxe le christianisme, puisqu'au départ le christianisme a été une religion pacifique et même persécutée. Jésus dit si on vous frappe sur la joue gauche, tendez la joue droite. Mais quand il parvient au pouvoir après l'empereur Constantin, vers 330 après Jésus-Christ, il devient à son tour persécuteur. Et surtout, il lancera les croisades au XIe siècle pour reprendre Jérusalem aux musulmans. Mais il y aura le pillage de Jérusalem et il y aura aussi en 1204 le pillage de Constantinople, occupé par des chrétiens mais orthodoxes et pas catholiques. Donc à partir des croisades, le christianisme devient lui aussi guerrier et militaire. Alors, Zélémir et les autres religions, là, c'est pas simple. C'est pas simple. Parce que si vous prenez le bouddhisme, il est réputé très pacifique et c'est vrai. Il n'y a jamais eu de guerre de religion dans le bouddhisme. Mais en même temps, on a vu un certain nombre de moines zen au Japon prendre le parti du militarisme japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a vu la religion traditionnelle japonaise, le shintoïsme, elle, être aussi belliqueuse dans l'impérialisme nippon. Vous vous souvenez des kamikazes, les kamikazes, c'était ces pilotes japonais qui jetaient leur avion suicide contre les porte-avions américains. Kamikaze, ça veut dire vent divin. C'est du japonais, et kami, c'est les divinités du shintoïsme. Parce que vers 1250, les Mongols avaient conquis la Chine et avaient voulu conquérir le Japon. Et par deux fois, ils ont été mis en déroute par une tempête. Et cette tempête-là, on l'a appelée vent divin. Et quand les pilotes japonais ont jeté leurs avions contre les porte-avions américains, on les a appelés des kamikazes. Et je vous signale, la chose est peu connue, que le premier attentat qui était commis en Israël, à l'aéroport de Tel Aviv, par, si vous voulez, des militants, plus ou moins terroristes, n'a pas été commis par les Palestiniens, mais il a été commis par des Japonais d'une armée rouge révolutionnaire dans les années 1960. Vous voyez donc que ces kamikazes, ça a rayonné, et ensuite la technique des kamikazes a été reprise au Sri Lanka par les Tamouls hindouistes en lutte contre les Cingalais bouddhistes et qui ont attaché des ceintures d'explosifs autour de leur taille et qui ont notamment assassiné comme ça le premier ministre indien Gandhi qui ne voulait pas leur donner des armes. Voilà. Alors on pourrait multiplier les exemples. Je voudrais quand même vous dire un mot de l'hindouisme parce que les plus grandes guerres de religion ont eu lieu en Inde, pays très peuplé, et elles auraient fait à peu près 100 millions de morts au cours des 5 derniers siècles, essentiellement entre musulmans et hindouistes. Alors qui a tort, qui a raison, ça c'est une autre affaire. Et puis on peut dire qu'aucune religion n'est totalement exemptée par ces problèmes de guerre, si quand même une est pour cause, c'est l'animisme, parce que l'animisme est à l'échelle du village. Donc il ne peut pas y avoir, si vous voulez, l'animisme d'État. Or la guerre, ça se fait essentiellement, qu'on le veuille ou non, entre États. Donc une religion acquiert un pouvoir belliqueux à partir du moment où elle a réussi à conquérir un appareil d'État. En conclusion, je dirais que nul ne sait de quoi sera fait l'avenir. Aucune prophétie n'est possible dans ce domaine, sauf que malgré tout le point le plus sensible de la planète c'est le Proche-Orient, où je vois plusieurs conflits ayant un caractère religieux. Il y a bien sûr le problème Palestine-Israël, Il y a le problème irakien qui oppose, outre les Américains, des sunnites aux chiites, les chiites étant les disciples d'Ali, gendre cousin du prophète, qui a d'ailleurs été tué en Irak à Najaf, ainsi que son fils Hussein à Karbala, et ce vieil antagonisme est en train de réapparaître, hein, puisque les lieux saints du chiisme sont en Irak, alors que l'Iran n'est chiite en tant que religion d'État que depuis 1601. Donc, Irak, Palestine, et puis peut-être aussi Liban, qui est un pays où il y a à peu près toutes les religions monothéistes possibles, 13 confessions chrétiennes, chiites, sunnites. Conclusion, si vraiment on veut que la paix revienne au Proche-Orient, il faudra trouver les modalités d'accord entre les trois religions issues d'Abraham et au sein de chaque religion, entre les branches différentes comme chiites et sunnites. Ce n'est pas pour demain, je vous le dis. Malheureusement, ces conflits-là ont encore un bel avenir devant eux. Si on ajoute la question de la bombe atomique iranienne, ça complique encore un peu plus la situation. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, la guerre n'est pas certaine, mais quant à la paix religieuse, elle n'est hélas pas pour demain. Merci beaucoup.